Bien, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je me trouve parmi vous cet après-midi. Et j'observais les sœurs dans leur répétition de chorale pour le culte en vietnamien. Et je me suis dit, apparemment toutes les femmes, qu'elles soient vietnamiennes ou françaises, il y a un point commun, il y a une énergie qui se dégage, un désir de servir. Je les regardais autour du piano, là. Et je me disais, c'est quand même formidable. Moi, je connais rien au Vietnam, mais alors de voir les sœurs vietnamiennes qui étaient là pour le Seigneur, brûlantes, puis notre frère Mong qui était là au milieu, j'ai trouvé ça remarquable. Alors merci au Seigneur pour tout ce zèle qu'il accorde à chacun et à chacune. Alors je voulais parler de la conformité à Christ parce que c'est le mois de janvier, c'est un mois où traditionnellement on souhaite les bons vœux. Et en pensant à tous les bons vœux qu'on a pu échanger les uns les autres, je me suis posé la question, mais dans le fond, quels seraient les vœux que Dieu nous adresserait? Et plutôt, quels sont les vœux que Dieu nous adresse dans sa parole? Et le vœu, évidemment, que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est de nous transformer à l'image de son Fils. Donc, de nous rendre conformes à Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire des confessions de foi ou des catéchismes, qu'ils soient de n'importe quelle origine chrétienne, mais il y a toujours dans les catéchismes et les confessions de foi la signification, la raison d'être de l'être humain. Je ne parle pas du chrétien, mais de toutes les créatures, de toutes les femmes et de tous les hommes que Dieu a appelés à la vie. Quel est le but ultime des créatures? Alors, toutes les confessions de foi et tous les catéchismes disent la même chose, qui peut se traduire par la phrase suivante, « Le but ultime de l'homme, c'est-à-dire dans le sens homme, le sens d'être créé, je ne parle pas de celui qui est né de nouveau, hein, de tous les hommes, de l'humanité, le but ultime de l'homme est de glorifier Dieu et de l'aimer à jamais. » Ça, c'est le but premier qui ressort dans les Saintes Écritures, de ce que Dieu attend de chacune de ses créatures, à plus forte raison pour nous donc qui sommes nés de nouveau, qui connaissons le Seigneur. Alors les trois textes qui nous ont été lus par Hélène sont les trois textes qui nous permettent de fonder en quelque sorte la pensée concernant l'appel de Dieu à la conformité à Christ. Pourquoi ? Parce que le premier verset en Romains chapitre 8 verset 29, dans la traduction du semeur, hein, c'est traduit ainsi, « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. » Donc nous savons qu'au moment de la chute, à la désobéissance d'Adam et Ève, l'être humain, la créature, selon la pensée biblique, a perdu une grande partie de l'image de Dieu qui l'habitait, pas la totalité, mais une grande partie. Et cette image de Dieu nous est de nouveau communiquée en Christ, par le Seigneur qui nous habite. Pourquoi ? Parce que lui va nous faire ressembler à sa propre personne, il nous a communiqué la vie divine par la conversion, et donc il va donc nous rendre conformes à l'image de Christ. Le deuxième, ça c'est la pensée de toute éternité de Dieu. Rendre chacun d'entre nous conforme à l'image de Christ. Le deuxième texte nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit, puisqu'il est dit dans la traduction second, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons ou reflétons, selon les traductions, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés ou changés en son image. » Dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Il y a la pensée de Dieu de toute éternité, c'est le passé, de nous rendre semblables à l'image de Christ. Il y a l'action divine du Saint-Esprit dans le présent, qui lui est capable de nous apporter cette transformation, de nous faire vivre cette conformité à Christ. C'est ce que la Bible appelle l'expérience de la vie nouvelle en Jésus-Christ. L'expérience d'une vie de résurrection, délivrée de la puissance du péché et habitée par l'Esprit même de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui lui nous transforme quotidiennement, jour après jour. Et puis la troisième perspective qui est le futur, mais évidemment ces trois perspectives s'harmonisent parfaitement, eh bien c'est en 1 Jean chapitre 3 verset 2, toujours dans la même traduction du Semeur, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que, lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Donc l'action divine est en accord avec sa pensée première, nous rendre semblables à l'image de Christ. À la conversion, il nous a accordé son Esprit Saint, qui est la personne de Dieu, le Saint-Esprit, capable, dans nos corps mortels, de nous rendre semblables à l'image de Christ, pour ensuite arriver dans un futur qui est la gloire, où là, nous le verrons face à face, car nous serons rendus semblables, ou nous lui ressemblerons. Tous ces textes, vous l'avez compris, se combinent et tendent vers un même but, la conformité à Christ. Ce sont là les vœux du Seigneur Jésus, les vœux de Dieu le Père, les vœux de Dieu le Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Pour cette année 2017, mais pour toute notre vie sur cette terre, en attendant la gloire à venir. Je me permets de rajouter un verset en 1 Jean chapitre 2, verset 6, que vous connaissez, mais la portée m'a longtemps, dans le fond, échappé, puisque le verset dit « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Donc il y a, dans les Saintes Écritures, l'annonce d'une possibilité de vivre à l'image de Christ, de voir l'image de Christ se développer en nous. Je ne sais pas ce que vous pensez de vous en tant que chrétien, si vous êtes déçu par votre vie chrétienne, par vous-même, par le péché qui parfois nous domine. Mais ce qu'il faut regarder cet après-midi et tout au long de notre vie, c'est regarder à celui qui est capable de nous transformer, qui a commencé cette œuvre par la conversion, par la nouvelle naissance, et qui travaille en permanence pour atteindre cet objectif. Alors on peut tirer quelques exemples du Nouveau Testament. Nous devons ressembler à Christ dans son incarnation. Alors, il y a des personnes qui disent, mais l'incarnation n'est-elle pas un événement unique qui ne peut être imité? Et la réponse est oui et non. Oui, en ce que le Fils de Dieu a revêtu une fois pour toutes notre humanité en Jésus-Christ, et cela ne se reproduira plus. Mais on peut répondre non, en ce que nous sommes tous appelés à suivre l'exemple de sa grande humilité décrite par Paul en Philippiens, chapitre 2, des versets 5 à 8. Toujours dans la nouvelle Bible Second, Bible du Semeur, pardon. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. C'est une incarnation. Et dans le fond, à Antioche, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les non-chrétiens ont regardé les chrétiens, au bout d'un an de présence à Antioche, le dit le livre des Actes au chapitre 12, si je ne me trompe, eh bien, c'est là où, pour la première fois, les croyants furent appelés chrétiens. Et le terme chrétien, ça veut dire petit Christ. Et donc, nous sommes des petits Christ. Et en cela, effectivement, nous incarnons. Dieu incarne dans nos vies, dans nos existences, dans notre corps mortel, il incarne la personne de Christ. Et lorsque nous allons au travail, faire nos courses, vivre dans notre famille où peut-être tout le monde n'est pas chrétien, enfin, quand nous sommes en train de vivre à l'extérieur de l'Église et dans l'Église, nous incarnons le Christ. Nous sommes des chrétiens, des petits Christ. Alors c'est très encourageant pour chacun d'entre nous de penser tous les matins en se levant, « Ah Seigneur, aujourd'hui, une nouvelle journée où tu vas me transformer, me faire vivre comme ton Fils. Et vous savez qu'en tant que chrétien, on est acteur, on agit sous la puissance du Saint-Esprit, et en même temps spectateur de ce que Dieu accomplit dans nos vies. Et c'est beau de voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et là, je ne parle pas de perfection, je parle simplement de l'action puissante du Saint-Esprit de Dieu qui, de progrès en progrès, nous transforme toujours davantage à l'image de Jésus-Christ. Nous devons nous conformer, enfin, le Saint-Esprit va nous conduire à nous conformer à Christ dans son service. Si, par exemple, on pense à la soirée où le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples, si on le suit dans la chambre haute, hein, dans nos pensées, on imagine, hein, ce lieu avec les disciples et puis le Seigneur, on le suit dans la chambre haute, là où il passa sa dernière nuit avec ses disciples, pendant le dîner, il ôta ses vêtements, noua autour de sa taille une serviette, versa de l'eau dans une bassine et lava les pieds de ses disciples. Quand il eut fini, il reprit sa place à table et il leur dit, et là c'est le texte biblique, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé vos pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » En Jean chapitre 13, versets 14 et 15. Quand le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples, dans la culture de son époque, c'était un travail réservé aux esclaves. Laver les pieds du maître pour un esclave, c'était entre autres une de ses missions. Mais voilà que c'est le maître qui se met à laver les pieds des disciples. Et c'est pour ça que Pierre avait du mal à comprendre ce qui se passait, mais je pense qu'il n'était pas le seul. Hein. Que plus loin, les Saintes Écritures nous expliquent que les apôtres, les disciples de l'époque n'avaient pas saisi vraiment grand-chose. Dans le fond, la leçon qu'on peut retirer de cela, et puisque vous êtes d'une culture asiatique et moi d'une culture européenne, on peut se dire les uns aux autres, dans nos cultures respectives, nous ne devons donc considérer aucune tâche à entreprendre comme trop servile ou dégradante. Moi, je ne sais pas ce que, en tant que Vietnamien, vous pouvez considérer comme dégradant. Je ne sais pas, moi je sais dans ma culture. Mais là, le Seigneur nous dit, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai servi. J'ai manifesté véritablement cette humilité. Et c'est en cela, et c'est dans cette direction-là que le Saint-Esprit va nous pousser. Parce que là, nous diriger, parce que là, c'est cela les conséquences de l'incarnation de Christ. D'être rendu conforme à l'image de Jésus pendant notre pèlerinage terrestre. Nous devons nous conformer, ou le Saint-Esprit va nous conformer, nous transformer à l'image de Christ dans son amour. L'apôtre Paul a écrit « Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu, pour nous, comme une offrande, et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Éphésiens chapitre 5, verset 2. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour est une exigence qui implique que toute notre conduite doit être caractérisée par l'amour. Mais, il rajoute, il a livré lui-même sa vie pour nous. Et là, c'est une référence explicite à la croix. L'apôtre Paul nous recommande donc vivement de ressembler à Christ dans sa mort, de pratiquer l'amour du calvaire. L'amour auquel nous sommes appelés et que Dieu veut développer dans nos vies, c'est cet amour qui va s'abaisser pour servir, mais qui est prêt à aller et qui nous conduira à aller, si Dieu le décide ainsi, jusqu'à la mort de nous-mêmes. Et donc, n'oublions pas qu'on n'a pas affaire à une espèce d'amour comme on pourrait le concevoir aujourd'hui au niveau humain, où on ne sait plus très bien où ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, enfin bon, on aime et puis on pardonne tout, puis on n'en parle plus. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur, dans le fond. Vous savez comment Dieu fait pour nous attirer à lui, il nous attire à lui. Il nous présente son amour, on a envie de lui, il nous attire à lui, nous disent les Saintes Écritures. Et en même temps, Dieu nous retient en nous présentant sa sainteté, sa pureté absolue, et il nous parle de péché, donc il nous attire, nous les pécheurs, et il ne dit rien sur le péché, au contraire, il en parle en présentant sa sainteté, sa personne. Et donc il y a un double mouvement chez le Seigneur pour nous amener à ce qui s'appelle la repentance. C'est-à-dire la prise de conscience de ce qu'est le péché pour pouvoir demander pardon, et ensuite pénétrer dans les bras de Dieu, puis découvrir cet amour manifesté en Christ. Mais Dieu n'est pas quelqu'un, quand il parle d'amour, où les choses seraient imprécises et où il serait un espèce de gentil Seigneur, quelque part, débonnaire, non. C'est un Dieu de sainteté, de pureté, il fait la différence entre le bien et le mal. Et donc c'est cet amour-là qu'il nous est demandé de vivre, un amour pur, saint, propre, honnête, droit, et en même temps prêt à aller jusque au don de soi-même, comme le Seigneur l'a fait. Ces événements, certains des événements de la vie de Jésus, déterminent clairement ce que la conformité à Christ signifie en pratique. Alors, je vais vous poser une question. Qui parmi nous, parmi vous dans l'auditoire, est marié? Si vous voulez bien lever la main. Allez-y, si vous êtes marié, levez la main. 1, 2, 3, 4 avec moi. Là, je vois une jeune fille qui lève la main, elle doit lever la main pour son papa. Et sa maman, c'est bien. Alors, mais là, il va être question des hommes. Et pour les célibataires, bien, c'est surtout les célibataires garçons auxquels ce verset va s'adresser. Par exemple, dans ce même chapitre de l'épître 5 aux Éphésiens, verset 25, Paul recommande vivement aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Ça, c'est un aspect concret, pratique de ce que Dieu attend et de la manière dont il va nous conduire dans ce chemin-là. Le travail du Saint-Esprit et de la parole de Dieu vont de concert pour nous amener justement à vivre cet amour. Alors vous voyez, c'est pas désincarné, bien au contraire, c'est vraiment, quand on est chrétien, un amour très particulier, une vie qui est la vie de Christ, dans laquelle Dieu veut nous mener, et ce sont ses souhaits. Nous devons aussi nous conformer, ou plutôt le Saint-Esprit va nous conformer, absolument que je change ma phrase, elle est mal construite, pas une bonne présentation. Le Saint-Esprit va nous conduire à nous conformer à Christ dans son endurance patiente. Et là, on va aborder le sujet de la souffrance. Et on va quitter Paul pour aller voir dans les épîtres de Pierre. Pourquoi ? Parce que dans chaque chapitre de la première épître de Pierre, ce dernier fait allusion aux souffrances à endurer pour Christ. Car le contexte de cette lettre est le début de la persécution. Très intéressant de voir que l'apôtre Pierre, lui, nous dit, mais il y a des choses à vivre pour Christ, il y a des choses à accepter, à endurer. Et au chapitre 2 de sa première épître, en particulier, Pierre enjoint les esclaves chrétiens, donc ceux qui étaient esclaves dans leur état d'être humain, mais chrétiens appartenant à Dieu, il les enjoint, même s'ils sont injustement punis, à supporter cette injustice, et à ne pas rendre le mal pour le mal. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Et nous sommes de même, et là ça s'adresse à tout le monde, à tous les chrétiens, nous sommes de même appelés à cela, car Christ aussi a souffert, nous laissant un exemple à suivre. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et cet appel à la conformité à Christ, dans les souffrances injustes, risque de devenir de plus en plus pertinent, face à l'augmentation des persécutions dans beaucoup de pays. Et vous, en tant que Vietnamien, vous savez ce que l'Église de Christ a souffert dans votre pays il y a bien des décennies en arrière. Des frères et sœurs y ont laissé leur vie, par esprit de fidélité pour le Seigneur. Et nous, en Europe, on n'en est encore pas là, mais peut-être que ça arrivera. Le Saint-Esprit va aussi nous conduire à nous conformer dans la mission que Christ a accomplie. Si on en vient en quittant Paul et Pierre pour arriver à l'apôtre Jean, On voit que dans sa prière, au chapitre 17 de l'évangile de Jean, le Seigneur a dit à son Père, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. » Et en envoyant ses disciples, il leur dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et donc, Dieu adresse une mission de partage de l'évangile à chacun de ses enfants. Non pas simplement aux pasteurs, aux responsables, aux anciens d'église, aux évangélistes, entre guillemets, mais à chaque enfant de Dieu. Car non seulement il nous a sauvés, mais il nous envoie. Tout comme Jésus-Christ a dû entrer dans notre monde par son incarnation pour nous sauver et payer le prix de nos péchés à la croix, nous devons nous aussi entrer dans le monde des autres. Nous devons ressembler à Christ dans sa mission. Alors, moi, je me souviens, il y a 48 ans, là, j'y pensais tout à l'heure, il y a 48 ans, quand le Seigneur m'a sauvé, que je suis rentré dans une entreprise, tout jeune chrétien, j'avais 23 ans, j'étais intégré à une équipe et on avait affaire au public. Et alors quand mes collègues étaient à droite, moi je me tenais à gauche. Et quand mes collègues venaient à gauche, moi je partais à droite. Et j'étais toute la sainte journée en train de me déplacer pour pas me trouver au contact avec mes collègues. Alors, au bout de 3 jours, j'ai mon chef de service de l'époque qui m'a dit « Jean, viens, j'ai quelque chose à te dire, viens dans le bureau ». Et alors, je m'assieds en face de lui et puis il me dit « Jean, tu as un problème d'intégration à l'équipe ». Et moi, je le regarde, j'ai dit « Moi, j'ai pas de problème d'intégration, j'ai un problème de sainteté ». Oh, il me regarde comme ça, il ouvre des yeux, il me dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et ben, je lui dis, moi je suis chrétien, il y a quelques semaines que je suis devenu chrétien, je veux pas perdre ma sainteté, donc je sais pas comment faire, parce que voilà, j'étais dans le monde avant, maintenant je suis plus dans le monde, enfin, vous savez, je sortais tout sans qu'ils comprennent, j'avais pas non plus tout très bien compris au début de ma conversion, tout ce que je savais c'est que j'étais sauvé, puis je voulais pas retomber dans le péché. Et alors, je pensais que si je m'étais trop près des autres, je risquais d'être contaminé. Et alors lui, il m'a dit, bon, j'y comprends rien, retourne au travail, mais bon, j'ai compris que c'est pas ce que je croyais. Et puis, c'est lui qui a fait la publicité, il a dit, Jean, c'est un chrétien, je comprends pas trop ce que c'est, mais c'est un chrétien, puis vous verrez, il est pas trop mal. Enfin bref, donc, tout le monde savait que j'étais chrétien après. Mais mon problème, c'était ça, c'était perdre ma sainteté. On m'a jamais appris comment rester saint, je savais pas. Et puis c'est en lisant les Saintes Écritures et en priant, puis le Seigneur m'a dit, mais Jean, regarde mon fils dans les évangiles. Il s'est laissé approcher par des prostituées, touché par au moins l'une d'entre elles, qui a répandu du parfum sur ses pieds et a essuyé avec ses cheveux, à tel point qu'un pharisien a dit, oh, si cet homme, en parlant de Jésus, était un prophète, il saurait de quelle nature est cette femme. Et regarde mon fils dans les évangiles, au contact permanent avec les pécheurs, sans jamais perdre une once de sa sainteté. Il m'a dit, c'est ça que je vais réaliser dans la vie de chacun de mes enfants. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et vous allez pouvoir vivre dans le monde, non pas pour être contaminé par le monde, mais pour contaminer le monde à votre tour. C'est pour ça qu'il nous dit au début du sermon sur la montagne, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors ça me rappelle aussi ce journaliste d'une grande fédération d'églises en Europe qui m'avait invité pour un congrès national et il m'interview entre deux réunions et il me dit « Jean, comment faites-vous pour protéger vos jeunes du péché du monde ?» Ah, je lui dis « Nous, on les enseigne sur tous les grands thèmes bibliques, tous les grands thèmes de société, alors ça remonte à 10 ans, 12 ans à peu près, donc c'était l'homosexualité, les déviations sexuelles, les comportements libres, enfin, etc., la drogue, machin, tout quoi. Il leur a dit, nous on les forme, on leur enseigne ce que la Bible nous dit concernant ces choses, et surtout l'identité en Christ, ce que ça veut dire d'être chrétien, et la puissance de vie de résurrection que nous avons à notre disposition en Jésus-Christ. Et on les envoie dans le monde, on les envoie évangéliser, on les envoie au contact des perdus. Mais il me dit, nous, on les enferme, on les retient, Et j'ai dit, nous, non, nous, on les forme et on les envoie pour les donner au monde comme le Père nous a envoyés. Et puis quand je vois tous ces jeunes qui sont devenus des jeunes femmes, des jeunes hommes maintenant, qui sont en train de fonder des églises, je me dis, c'est merveilleux. Ils n'ont pas eu peur, et nous, plus âgés, on n'avait pas peur d'être contaminés. On voulait simplement vivre la vie de résurrection, être le sel de la terre et vivre ces choses, et être la lumière du monde, et vivre cette réalité. Alors, en étant envoyé dans le monde, bah évidemment, on se heurte à ce qui s'appelle la souffrance. Et la souffrance fait donc partie du processus dont Dieu se sert pour nous rendre conformes à Christ. Alors, il y a des souffrances injustes, il y a des souffrances que nous avons nous-mêmes créées par nos désobéissances, mais il y a des souffrances où on n'y est pour rien, ça nous tombe dessus, et n'oublions pas que même si c'est injuste et que nous avons le droit de réclamer justice, eh bien, Dieu utilise tous ces aspects de nos vies pour nous rendre semblables à l'image de Christ. Et puis, il y a la conformité à Christ dans le défi de l'évangélisation. On peut se poser la question suivante. Comment se fait-il que nos efforts d'évangélisation soient si souvent voués à l'échec? Il y a plusieurs raisons à cela, mais il y en a une qui est une raison majeure. C'est peut-être que nous ne ressemblons pas beaucoup au Christ que nous proclamons. Vous savez, on a des équipes qui implantent une église à Paris, là, et un des responsables de cette équipe m'expliquait l'autre jour qu'il a posé la question suivante à un non-chrétien. Il lui a dit, mais pourquoi tu reviens au culte? Pourquoi tu reviens parmi nous semaine après semaine? Alors un non-chrétien lui a dit, et qui est devenu chrétien hein, depuis, mais à l'époque il lui a dit, parce que vous me donnez envie d'être comme vous, de vivre ce que vous vivez. Et puis, il m'a expliqué aussi qu'un jour, il avait demandé à quelqu'un avec qui il parlait dans la rue pour lui présenter l'évangile, pourquoi la personne n'était pas chrétienne. Et cette personne a répondu, mais parce que les chrétiens, donc sans connaître les jeunes dont je parle, hein, il a dit, mais les chrétiens ne me donnent absolument pas envie de leur ressembler. Donc on se rend bien compte que la prédication la plus efficace, c'est-à-dire l'action d'évangéliser, de témoigner, je ne parle pas d'une prédication comme je suis en train d'en faire une, mais la prédication, c'est-à-dire le témoignage de nos vies, le témoignage le plus efficace, c'est l'apanage de ceux qui incarnent ce qu'ils disent. De là la puissance que Dieu veut nous communiquer, cette vie de résurrection, pour que quand nous parlons aux autres du Seigneur avec amour, avec passion, avec sainteté, eh bien les autres sentent ces choses-là. Quelqu'un d'autre a dit, ceux qui ont un impact sur les perdus, ce sont ceux qui incarnent leur message. Donc, quand on parle de l'évangile, les autres se disent, mais il y a quelque chose de spécial, qu'est-ce qui habite dans cette personne? Un autre a dit, les chrétiens doivent ressembler à leurs paroles. L'authenticité touche les gens au plus profond d'eux-mêmes. Ce qui parle aujourd'hui, a dit un autre, c'est fondamentalement l'authenticité de la personne. Je me souviens, il y a 48 ans en arrière, pas 48 ans, 54 ans en arrière, le premier chrétien que j'ai rencontré de ma vie, j'étais pas content par rapport à tout ce qu'il me disait sur Dieu, parce que j'étais pas d'accord. Mais lui m'a impacté par sa façon d'être, par sa joie, par son dynamisme, par ses convictions, et c'était authentique. Et je ne me suis souvenu que de lui, pas de ce qu'il me disait, mais que de ce contact avec cette personne. Et c'est ce qui m'a amené 6 ans plus tard à la conversion, enfin, avec l'action évidemment du Seigneur. Et puis il y a la conformité à Christ et la présence de l'Esprit-Saint en nous, pour terminer. Comment cela est-il possible pour nous de ressembler, d'être conformes à Christ? On le sait, par notre propre force, c'est clairement impossible. Mais Dieu nous a donné son Esprit Saint pour nous permettre d'atteindre ce but. Et alors là, je vais utiliser un exemple que j'ai trouvé dans un livre de John Stott, qui lui rapporte l'explication d'un des archevêques de Canterbury, un dénommé William Temple, qui était archevêque de Canterbury du 1er avril 1942 jusqu'au jour de sa mort, c'est-à-dire le 26 octobre 1944. Et cet archevêque de Canterbury avait l'habitude d'illustrer cette question, ce point, en se servant de Shakespeare. Il a dit les choses suivantes. « Il est inutile de me donner une pièce comme Hamlet ou le roi Lear et de me demander d'en écrire une semblable. Shakespeare le pourrait, moi non. Il est inutile, dit-il, de me montrer une vie comme celle de Jésus-Christ et de me demander d'en vivre une semblable. Jésus le pourrait, moi non. Mais, rajoute-t-il, si le génie de Shakespeare pouvait m'habiter et vivre en moi, alors je pourrais écrire des pièces semblables aux siennes. Et si l'Esprit Saint de Jésus-Christ pouvait m'habiter et vivre en moi, alors je pourrais vivre une vie semblable à la sienne. » Et c'est pour ça que le verset de 2 Corinthiens a cette importance avec tous les versets concernant le baptême du Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est une possibilité parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pour ça que Dieu nous l'a accordé au jour de notre conversion. Pour être rendu conforme à l'image de Christ. Le but de Dieu est de nous rendre conforme à Christ, nous l'avons compris. Et sa méthode consiste à nous remplir de son Esprit Saint. Alors je ne saurais trop vous exhorter à faire des études approfondies sur l'action, sur la personne et l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, selon les Saintes Écritures, afin que nous soyons toujours en progrès dans cette transformation, cette conformité à l'image de Christ, et que nous soyons des chrétiens joyeux, heureux, rempli de plénitude pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen.